Au mois de Teshrit, Cyrus, ayant livré bataille à l'armée d'Akkad, à Oupou, sur la rive du Tigre, le peuple d'Akkad reflua. Il se livra au pillage et massacra la population. Le 14, Babylone fut prise sans combat et Namonide s'enfuit. Extrait de la chronique de Namonide, dernier roi de Babylone.
Les fenêtres de l'histoire avec Philippe Faureau.
En 539 avant Jésus-Christ, un événement important pour la géopolitique et pour l'histoire du Proche-Orient a lieu. Cette année-là, les troupes perses du roi Cyrus vont s'emparer de Babylone et détruire ce qu'on appelle l'Empire néo-babylonien. Cet événement nous est rapporté par plusieurs sources. Certes, dans les livres bibliques, il y a l'évocation de la chute de Babylone, ainsi dans le livre de Daniel ou dans le livre d'Isaïe. Mais il faut aller chercher ailleurs des sources historiques qui nous précisent véritablement le contexte et l'événement. Hérodote, dans ses histoires, rapporte également la chute de Babylone. Et il est sans doute tributaire de sources perses et babyloniennes que nous connaissons en partie aujourd'hui. C'est le cas, par exemple, du cylindre de Cyrus, où on fait une description louangeuse des actes du règne du roi des rois, le pamphlet de Nabonide, qui est donc le dernier souverain de Babylone, et également la chronique de Nabonide, qui est un texte sans doute du 3e, 2e siècle avant Jésus-Christ, qui dépeint la fin du règne de ce roi et la prise de Babylone. Au moment où les Perses vont s'emparer de la ville, l'empire néo-babylonien a la capacité de dominer la région du Moyen-Orient. En effet, les Babyloniens avaient détruit ce qu'on appelait l'empire néo-assyrien dans les années 614-609. Et ils avaient été conduits par le fondateur de ce nouvel empire, Nabopolassar, qui avait d'ailleurs été appuyé dans cette destruction de l'empire assyrien par les Mèdes, c'est-à-dire les Perses eux-mêmes. Cette période est dominée par la figure d'un roi extrêmement connu, puisqu'il a même donné lieu à un opéra de Verdi, Nabucodonosor II, qui a régné de 605 à 562. Et qui véritablement va faire de l'empire néo-babylonien une immense puissance. C'est lui, par exemple, qui va, en 587 avant Jésus-Christ, s'emparer de Jérusalem et provoquer l'exil, non pas de l'ensemble du peuple hébreu, mais en tout cas des élites qui iront dans la capitale de l'empire. La succession de Nabucodonosor, et c'est un élément à prendre en compte, n'est pas facile, parce qu'effectivement, les luttes pour le pouvoir se succèdent à la tête de l'Empire. Le fils de Nabucodonosor, Amel-Marduk, lui succède, mais il est renversé après 2 ans de règne par un des dignitaires de la cour, et qui est également son beau-frère, Nérigilissar, qui transmet à sa mort, en 556, le pouvoir à son fils, Labashi-Marduk, qui règne lui-même à peine 3 mois, avant d'être détrôné par une conjuration qui porte au pouvoir Namonide, qui sera le dernier souverain de Babylone. Donc il est évident que le pouvoir au sommet est affaibli par cette succession et ces coups d'État. Autre élément qu'il faut prendre en compte, c'est que le roi Nabonide est finalement assez rarement à Babylone. Pour des raisons d'ailleurs qui échappent aujourd'hui aux historiens, il va passer dans les années 550-540 une dizaine d'années du côté de la péninsule arabique. Et enfin, autre élément qui a pu lui valoir des oppositions, c'est que le roi Nabonide a une dévotion particulière pour le dieu lune, Sin. Or, dans la tradition babylonienne, le grand dieu, celui qui est véritablement vénéré au-dessus des autres, c'est le grand dieu Marduk. Et il est possible qu'il y ait eu une rupture entre une partie du clergé de l'empire babylonien et le souverain. Or, durant ce même moment, les Mèdes commencent à se renforcer. Et véritablement, on assiste, dans les années qui précèdent 539, à une montée en puissance de l'empire de Cyrus, en particulier dans la mesure où il réussit à envahir le nord de la région, l'Anatolie, et il fait tomber un royaume qui exerçait jusque-là une hégémonie sur la région, c'est le royaume de Lydie, du roi Crésus. Et donc, à la fin des années 540, les Perses sont désormais des concurrents sérieux pour l'empire néo-babylonien. Les historiens de la période soulignent que la chute a finalement été rapide. On parle même d'une espèce de campagne éclair qui aboutit à la prise de Babylone. Nous sommes au début du mois d'octobre 539 et les escarmouches qui pouvaient opposer Perses et Babyloniens jusque-là deviennent une véritable campagne militaire. En effet, les troupes perses entrent dans l'Empire à ce moment-là. Ils empruntent une route qui semble être la plus directe depuis le plateau iranien vers le cœur de l'Empire par la vallée de la Diala. Les Babyloniens ont pourtant des éléments de résistance. Ils peuvent se retrancher derrière un dispositif défensif qui avait été construit à l'époque de Nabucodonosor pour défendre Babylone. Mais en fait, les défenses ne vont servir à rien car visiblement la rapidité de l'armée perse va faire que, dans un premier temps, elle parvient à franchir les obstacles, à vaincre sur le Tigre une armée babylonienne qui avait été envoyée pour les repousser. Et donc, quasiment sans combat, dit-on pendant la nuit et pendant une nuit de fête, dans un calendrier babylonien qui correspond au 12 octobre 539, à prendre la ville. C'est-à-dire que Babylone tombe quasiment sans résistance. Et Nabonide va prendre la fuite. Les sources qui nous permettent de connaître justement cette prise de Babylone rapportent qu'il a été finalement à nouveau arrêté et ramené à Babylone même. Ce que nous indiquent aussi les sources, c'est que finalement, la chute de Babylone n'interrompt pas la vie, en particulier cultuelle. Ainsi s'exprime l'auteur de la chronique de Nabonide. Le 16, donc 2 jours après la chute de la ville, Ugbaru, gouverneur de Gutium, et l'armée de Cyrus firent sans combat leur entrée dans la ville. Plus tard, étant revenu, Nabonide fut pris dans Babylone. Les hommes de Gutium cernèrent les portes du grand temple, mais il n'y eut nulle interruption des rites, d'aucune sorte, et dans quelque autre temple, et aucune échéance festive ne fut manquée. On observe là véritablement un savoir-faire de Cyrus. Il ne s'agit pas de se baser seulement sur la brutalité. Il veut apparaître comme un continuateur de l'ordre divin, et que les cultes ne soient pas interrompus dans la mesure où la ville aurait été prise. Non, il s'agit d'une continuité. Nabonide perd le trône, mais Cyrus se présente comme le nouveau responsable des populations que la victoire militaire lui a confiées. Et d'ailleurs, cette tradition d'un Cyrus bienveillant se retrouve à un autre endroit de la Bible. J'évoquais tout à l'heure le livre d'Isaïe et de Daniel pour la chute de Babylone, mais il y a également un texte extrêmement intéressant au tout début du livre d'Esdras, au chapitre 1, où on voit écrit ce qu'on a appelé l'édit de Cyrus, qui est en fait un édit qui permit aux exilés encore présents à Babylone de rentrer au pays et de construire un second temple. Voici l'édit. « Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Yahvé, le Dieu du ciel, m'a remis tous les royaumes de la terre. C'est lui qui m'a chargé de lui bâtir un temple à Jérusalem en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de tout son peuple, que son Dieu soit avec lui, qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse le temple de Yahvé, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu qui est à Jérusalem. » Qu'à tous les rescapés, partout, la population des lieux où ils résident apporte une aide en argent, en or, en équipement, en monture, en même temps que des offrandes de dévotion pour le temple de Dieu qui est à Jérusalem. Ceci vous explique que le roi des rois a bénéficié d'une réelle popularité et au demeurant, c'est bien dans l'état d'esprit de ce que fut l'Empire perse où la diversité des populations ont pu avoir leur liberté religieuse dans la mesure où ils restaient fidèles au pouvoir du roi des rois. Et la tradition chrétienne, eh bien, a repris cette image d'un Cyrus tolérant. Il n'est pas étonnant d'ailleurs de voir qu'à deux reprises, à un endroit où peut-être on ne l'attend pas, Cyrus est représenté, en effet, il est représenté à deux reprises au palais de Versailles.